C'est ce que veulent dire les anges. Mais laisse ta Torah, laisse ta gloire de la Torah dans le ciel, parce que les créatures de la terre ne seront jamais capables de se conduire de telle sorte que tant Esh ou Maïm soient conciliés. Il n'y a que la marmite et le ciel qui soient capables de faire cela. Est-ce que c'est bien clair? Alors vous voyez pourquoi Dieu n'a pas créé un ciel qui aurait pour nom Esh ou Maïm, mais il a créé un ciel qui a pour nom que Shamaïm, c'est-à-dire sans le Aleph, parce que la Mitzvah Adin Esh empêche l'homme d'aller jusque-là tant qu'il ne le mérite pas. C'est-à-dire l'homme peut avoir une relation directe avec toutes les valeurs des Sphirot, sauf avec Hod. Seul le grand prêtre Aaron sera capable d'une fois, mais enfin, ça c'est tout le projet de la rédemption, de la Kapara. Hod, c'est la Sphira de Aaron. Et nous reverrons ça tout à l'heure. Vous voyez que Moïse seul ne peut pas recevoir la Torah. Il faut que Aaron soit avec lui. Et à Moïse seul, les anges refusent la Torah. Mais parce que il est de la Sphira de Netzach. Il faut l'homme de la Sphira de Hod pour que les anges acceptent de donner la Torah à Moïse. Mais qu'est-ce qu'il y a donc dans ce thème? C'est que l'enjeu de la Torah, c'est au fond ce que le Créateur réclame de nous, c'est d'être capable de se conduire de telle sorte que tant Chesed que Din soit satisfait, tant la miséricorde que la rigueur. C'est la grande différence qu'il y a entre la Torah comme loi morale et toutes les lois morales que les sociétés humaines, humanistes, si vous voulez, se sont inventées. Parce que dans la dispersion des sociétés humaines, chacune d'entre elles a perçu la souveraineté d'une valeur en particulier, mais l'unité des valeurs n'est jamais connue sinon en Israël. Et donc le projet de la Torah pour Israël correspond au projet du Dieu unique que tant Midat HaChesed que Midat HaRachamim soit satisfait. Est-ce que c'est bien clair? Alors on voit donc que l'homme n'a pas de part au ciel avant d'arriver à mériter par la Torah et par la preuve faite de cette conciliation des valeurs. Et c'est pourquoi le Aleph se trouve être occulté, et c'est pourquoi c'est du ciel que vient ce refus que la Torah soit donnée à l'homme. C'est-à-dire que le lieu naturel de la Torah, c'est le ciel. Je pense avoir déjà dépassé les questions de vocabulaire, vous comprenez bien l'idée. Et cette entreprise de donner la Torah à la terre se heurte, d'après le Midrash, au refus des anges, c'est-à-dire au fond, au refus du principe de l'unité de Dieu tel qu'il se dévoile dans le ciel nommé Esh Umayim. Le Aleph est occulté. Et voilà donc où est le chidouche. C'est que si jamais le ciel était écrit avec aussi un Aleph, alors nous serions perdus. Parce que nous aurions le mot Hashemim. Hashemim en hébreu, ça veut dire coupable. Pour ceux qui connaissent les. Ça veut dire par rapport au dévoilement total des deux midot, c'est-à-dire tant Midat HaDin que Midat HaRachamim, nous serions perdus à l'avant. Alors il y a un amoindrissement de la Midat HaDin, le Aleph disparaît, de telle sorte que le ciel, que dans le ciel, il y a un peu plus de miséricorde que de rigueur. Bon, je referme toute cette parenthèse, le chidouche c'était Hashemim. Je referme, parce que si c'était écrit avec un Aleph, l'homme serait à sa place partout, mais perdu. Vous comprenez pourquoi? Bien. Alors donc, les anges ont formulé toute cette contestation en disant, l'enjeu est trop grand, garde la Torah dans le ciel. Alors, Dieu a dit à Moïse, Amarlo a kadoshba ou le Moshe, et rezir la hem tshuva. Donne-leur une réponse. Amar le fanar, Moïse a dit devant Dieu, Ribono shel olam, mitiare ani shema isrefuni behevel shezefihem. Moïse dit à Dieu, Maître du monde, j'ai peur qu'ils ne me brûlent avec le souffle de leur bouche. Et le souffle de leur bouche, c'est ce esh, c'est ce feu. C'est-à-dire que, avant même d'entreprendre de recevoir la Torah et d'avoir à en faire la preuve, simplement l'énoncé des principes du jugement risque de disqualifier l'entreprise de Moïse. Et quelle est cette entreprise de Moïse? Non pas simplement d'être prêt à vivre selon une certaine morale, ça c'est l'humanisme, hein, mais d'aller jusque dans le ciel de la transcendance pour réclamer la loi morale absolue et corollairement le droit de l'incarner dans l'histoire terrestre et par conséquent d'obtenir cette prérogative de décider ce qui est le bien et le mal, non pas quant à telle ou telle éthique de morale civique ou sociale, à la limite de morale de la cité, mais en tant que l'histoire a une signification morale dans le sens de l'aboutissement du projet de la création. Je veux dire dans le projet eschatologique même de la morale, et pas seulement de telle ou telle politesse provisoire, de tel ou tel niveau de culture ou de civilisation. Ce qui a été l'engagement de Frère. Eh bien, le projet lui-même de Moïse serait disqualifié, et il a peur, dit-il dans ce Midrash, d'avoir à se mesurer avec les principes du jugement avant d'avoir lui-même l'occasion de faire sa preuve. Et vous identifiez d'ailleurs que ce Midrash nous explique ce qu'a été l'histoire d'Israël. Le monde ne nous a jamais laissé le loisir de faire la preuve d'une vie selon la Torah avant même que le loisir en soit donné. Tout se passe comme si les Malachi HaSharet empêchent que Israël s'identifie d'après la Torah. Et Dieu insiste, et Dieu dit à Moïse, « Achos de qui c'est que vous dites, tiens-toi au trône de ma gloire, ve hazor lahem tshuva, et réponds-leur une réponse. » Ce Néma, et un verset cité pour ça, mais nous allons avancer, et à ce sujet, Rabbi Nachum enseigne que Moïse s'est attaché au trône de la gloire de Dieu et s'est adressé aux anges de la manière suivante, au nom de Dieu lui-même. Qu'est-il écrit dans la Torah ? Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Alors Moïse dit aux anges, est-ce que vous êtes vous descendu en Égypte chez Pharaon ? Est-ce que vous avez été asservi à lui ? Et par conséquent, en quoi vous auriez besoin d'une Torah ? De même, il est écrit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Est-ce que vous vivez parmi les Goïm, qui sont des idolâtres, que vous ayez besoin d'une loi, où il y aurait un commandement de ce genre ? Alors vous devinez quelle est la stratégie de discussion de Moïse. Il énumère les différents commandements du Décalogue, les différents commandements de base de la Torah, en discutant avec les anges sur le principe suivant, tout ce qui est réclamé dans la Torah ne concerne que les hommes qui vivent sur terre, et en particulier Israël qui vit la vie humaine au paroxysme, d'après les différentes valeurs qui se développent dans les 10 commandements. Et en fin de compte, les anges reconnaissent que, effectivement, la Torah ne les concerne pas, et c'est la raison pour laquelle ils acceptent que Moïse reçoive la Torah. Alors déjà, c'est une première description selon le Midrash. Je voudrais mettre en évidence un problème dans ce Midrash. C'est que Moïse énumère 8 des 10 commandements. Et tout se passe comme si nous avons là un problème un peu caché. Mais il faut comprendre pourquoi Moïse ne discute pas par rapport aux anges, en relation avec ces 2 commandements qui ne sont pas cités dans le Midrash. C'est le commandement de « tu ne porteras pas de faux témoignages et tu ne convoiteras pas ». Bon, un exégète universitaire dirait que le rabbin du Midrash qui enseigne dans cette page du Talmud n'avait pas exactement le même texte des 10 commandements que nous. Mais enfin, vous pensez bien que ce n'est pas une explication suffisante. Alors en fait, cela signifie qu'il y avait au moins 2 commandements au niveau desquels Moïse ne pouvait pas discuter avec les anges. C'est-à-dire au niveau desquels les anges auraient eu le droit de réclamer que, en tout cas, les valeurs correspondantes à ces 2 commandements restent dans le ciel et ne soient pas données sur terre. Voici quelle est la réponse du Maharal. C'est que une obligation, une mitzvah, un commandement, ne peut concerner qu'un être qui ne possède pas encore de façon intégrée à sa nature la valeur considérée. À la limite, je n'ai à dire « soit bon » qu'à quelqu'un qui ne l'est pas encore. À partir du moment où quelqu'un a intégré la bonté dans son être, il n'y a plus de place dans la loi morale pour un commandement concernant la bonté pour lui. Est-ce que c'est bien clair ? La loi morale ne se fait plus impérative, elle se fait simplement descriptive de l'identité de l'homme à qui elle parle. Je veux dire, d'une autre manière, que si un être a déjà réalisé une certaine vertu, il ne perçoit pas cette vertu comme une obligation, mais comme une modalité de son être. Par conséquent, ça signifie que ces deux commandements, ne pas porter de faux témoignages et ne pas convoiter, se réfèrent à des valeurs qui définissent l'aisance comme telle. Et voici comment le Maharal explique. Lorsque l'aisance porte témoignage, il porte témoignage de Dieu. Par conséquent, il n'y a dans une Torah qui concernerait l'aisance aucune place pour un commandement qui dirait ne porte pas de faux témoignage. Puisque par essence, c'est-à-dire par définition, l'aisance ne peut porter que témoignage de la perfection de Dieu. Donc il n'y aurait pas dans la Torah des anges place pour un tel témoignage. Est-ce que c'est un tel commandement portant sur le faux témoignage? Et c'est pourquoi Moïse ne peut pas discuter au niveau de ce commandement-là. Vous voyez donc que la Gemara sait très bien ce qu'elle fait en omettant ce commandement. Et en ce qui concerne le commandement de « tu ne convoiteras pas », alors là, le Maharal, je crois, a voulu faire un peu d'humour, si j'ose dire, enfin, un humour très profond d'ailleurs, c'est « bdiha », comme on dit en hébreu. Il dit, et en ce qui concerne le commandement de « tu ne convoiteras pas », Moïse ne peut décemment pas discuter des anges au niveau de ce commandement-là, puisque lorsque les anges convoitent, c'est la Torah qui convoite. Puisque c'était effectivement le fond du livre. Ça veut dire que les anges sont capables de porter témoignage que dans le bien, et ils ne sont capables de convoiter que la Torah, par conséquent, Moïse ne pouvait pas se référer à ces deux commandements. Est-ce que c'est bien clair? Alors, il résulte en tout cas de l'analyse du texte que nous avons lu, que c'est en se référant à la différence de nature entre les anges et les hommes que le Midrash a voulu expliquer la possibilité que la Torah soit révélée. Et c'est là qu'apparaît l'analyse du Maharal. La différence entre les anges et les hommes, c'est que les anges ne sont pas capables de fautes, et par conséquent la Torah ne peut pas se formuler à eux sous forme d'obligation ou d'impératif, alors que les hommes sont capables de fautes, et c'est la raison pour laquelle la Torah se formule à eux sous forme de mitzvot, sous forme d'obligation. Dans l'enseignement biblique, dans l'enseignement du Tanakh en général, on figure les anges comme ayant des pieds droits, regel yeshara, c'est-à-dire qu'ils sont incapables de s'écarter du chemin tracé, ni à gauche ni à droite. Et l'image est très claire, ils sont privés de liberté. C'est un être qui est autre que Dieu, puisqu'il est Dieu lui-même est modifié du point de vue d'une certaine spécificité et d'une certaine subjectivité, ce qui est aussi la définition de l'homme. Mais la différence, c'est que l'ange coïncide avec la volonté de Dieu pour un monde, alors que l'homme, qui est exactement cette différenciation de l'être, que nous trouvons chez les anges, l'homme et le monde lui-même en cours d'histoire et en cours de liberté. Alors que d'un certain point de vue, il y a une supériorité chez les anges par rapport à la perfection déjà obtenue, d'un autre point de vue, il y a une supériorité chez l'homme par rapport au mérite d'avoir obtenu la perfection. Et cette référence de Moïse au nom de Adam, à la différence d'identité entre l'homme et l'ange, qui fait que il a le mérite d'obtenir la Torah. Alors en d'autres termes, ça signifie que c'est le fait que l'homme soit libre qui explique que la révélation puisse être faite. Et effectivement, nous ne pouvons pas ne pas remarquer comment la Torah établit un lien très profond entre l'expérience de la liberté au moment de la sortie d'Égypte et l'événement de la révélation après la sortie d'Égypte au mont Sinaï. C'est seulement à des êtres qui sont capables d'expérimenter la liberté que peut être dévoilée la transcendance. C'est-à-dire cette impasse philosophique dans laquelle nous étions au début du problème et qu'avait posé le Maharal, comment se fait-il que la transcendance puisse être révélée, ce qui est incompréhensible à la raison? Eh bien, la Torah nous en donne une réponse bien précise. La transcendance peut être révélée à l'être libre. Parce qu'effectivement, la liberté qui définit la créature est de la nature même du monde de la transcendance. Explique de la manière suivante. Le terme du Midrash que je vous ai cité et qui fait dire à Dieu en parlant à Moïse, donne-leur une réponse, c'est le terme de Teshuva. Teshuva en hébreu signifie la réponse, mais ça signifie aussi le repentir. Teshuva signifie aussi le repentir. Il y a là une indication extrêmement importante, c'est que Moïse avait affaire à comprendre aux anges que l'homme qui allait recevoir la Torah était capable de repentir. Et que par conséquent, bien que l'éventualité de la faute soit par là même le risque de perdre la valeur de la Torah, le repentir serait assez efficace pour réintégrer la pureté ou la virginité de la loi morale, et que par conséquent, malgré le risque d'avoir à incarner la loi morale dans le monde d'en bas et donc de priver de sens l'univers tout entier, eh bien, la capacité de repentir était capable, aurait suffi à réintégrer le monde des valeurs. Voilà donc le premier midrash que je voulais développer à ce sujet. Alors, je vous rappelle l'ensemble de l'analyse. La question posée par le Maharal est comment la révélation peut-elle être possible? N'y a-t-il pas là une façon de parler? N'y a-t-il pas là un pieux mensonge? Comment Israël peut-il oser entreprendre, dire que c'est Dieu lui-même, le Créateur lui-même, qui lui a révélé la loi morale? Et l'analyse du Maharal à propos de ce Midrash nous révèle que à partir du moment où une société humaine, en tant que société, a ce courage d'avoir à vivre son histoire jugée d'après la morale absolue, alors Dieu, et cela fait partie des attendus de la création du monde, concède sa prérogative de définition du Shulchan Aruch, si j'ose dire, sa prérogative de définition de la loi à la société en question, à Israël, que d'autre part, c'est parce que Israël a eu l'expérience de la liberté, et il est jusqu'à présent dans l'histoire humaine le seul peuple à avoir jamais été une fois libéré de l'asservissement. Tous les autres peuples ont la même exigence, la même nostalgie, mais n'ont jamais pu réussir en aucune péripétie de leur histoire, même pas la Révolution française, à avoir l'expérience de la sortie de l'aliénation. Seul Israël a vécu vraiment l'asservissement et a vécu vraiment la libération, d'où l'impact important de la référence à la sortie d'Égypte dans notre histoire, que seul un être capable de liberté est capable de percevoir la révélation. Voilà donc l'essentiel de cette première analyse. Je vais m'arrêter là provisoirement pour vous donner la parole si vous avez des questions. Je vous avoue que j'ai pas très bien compris votre question parce que non, c'est inutile. Parce qu'il y avait dans la manière dont vous avez posé votre question suffisamment d'éléments de réponse pour que la question ne se pose pas. Alors, je ne comprends pas très bien. Voilà ce que je voulais dire très exactement. Une valeur ne se formule comme obligation, ce que nous appelons en hébreu une mitzvah, que par rapport à un être qui n'a pas encore intégré cette valeur. Vous comprenez ? Bon, je vous ai donné l'exemple de la bonté, qui est l'exemple le plus simple. Si j'ai à dire à quelqu'un « sois bon », c'est qu'il ne l'est pas. À partir du moment où quelqu'un est bon, alors la valeur de la bonté ne se révèle plus à lui en tant qu'obligation, mais en tant que confirmation de son propre être.
Bien. Par exemple,
Bien justement, c'est ce que Moïse leur dit. Est-ce que vous travaillez pour qu'on ait à vous dire tu te reposeras le septième jour? Ça veut dire que la valeur qui est visée par le Shabbat ne concerne pas l'identité de l'ange.
Mais ces deux commandements-là par rapport aux autres.
Voilà, parce que ces deux commandements-là en particulier ne peuvent pas se trouver dans une éventuelle Torah des anges, puisqu'effectivement, les valeurs en question les définissent et les conservent. Alors je reprends cette analyse parce qu'il y avait effectivement ici un raisonnement de type talmudique qui consiste à pouvoir raisonner à la fois, non pas dialectiquement, mais raisonner à la fois dans les deux sens d'une proposition, et affirmative et négative. Alors je vais reprendre ça un peu plus lentement. Prenons le premier... Comment ? Non, écoutez, c'est l'inverse. Les anges ne sont pas capables d'agressivité, donc il n'y a pas à leur dire tu ne tueras pas. C'est pas que les anges ne peuvent pas tuer, les anges ne sont pas dans le cas d'avoir à être celui à qui on dirait tu ne tueras pas. Justement. Ils ne peuvent pas porter de faux témoignages parce qu'ils portent témoignage de vérité. Il y a le cas particulier où ils portent témoignage. Mais lorsqu'ils portent témoignage, c'est un témoignage de vérité. Alors c'est la raison pour laquelle ce commandement pourrait être dans leur Torah, mais Moïse n'a pas discuté avec eux là-dessus, parce que c'est réglé en bien chez eux. Est-ce que c'est bien clair? Vous comprenez? Comprenez mieux maintenant? Bon. Comment? Bon, jusqu'à présent, ce sont des questions de détail, mais enfin, je crois que ça vaut la peine de le dire. Oui. Comment? Oui, c'est le deuxième point sur lequel... C'est le deuxième point sur lequel je voulais arriver. Mais j'y arriverai tout à l'heure. Enfin, je voulais voir que vous dites... Oui.
Vous avez parlé de tout au début de l'émission,
Écoutez, les Shemot, les Malachim, les Olamot, les Sfirot, les Midot, tout ça c'est la même chose, mais c'est très différent par rapport aux Madrigot de l'être. Hein? C'est toujours le dévoilement de la providence, de la souveraineté du Créateur, mais dans des niveaux d'être très différents. Alors, suivant le niveau d'être, on appelle cela des Sphirot, ou des Midot, ou des Olamot, ou des Malachim. Ça renvoie à des études de Kabbalah, enfin, mais c'est une question de vocabulaire, finalement. Et le Midrash a l'habitude de parler des Malachim Asharet.
Oui. Oui, effectivement, Baral dit que Dieu aussi prie, et sa prière est à peu près ceci, que ce soit ma volonté de répondre à la grâce, mais que ce soit mes appuis.
Que ce soit une volonté devant moi. C'est dans le Midrash. Le Maharal cite le Midrash. Oui. Et quelle est votre question? Oui, c'est dans la Gemara. Hein, c'est la Gemara de Brachot. Mais je ne comprends pas très bien votre question. C'est-à-dire, à partir du moment où vous avez lu cette citation, vous l'avez citée, vous l'avez comprise. Mais quelle est la question qui se pose à vous?
La question, je vous posais tout à l'heure une question un peu plus étendue, et j'ai fait un petit détail en ce qui concerne cette prière, parce que tout le monde est étonné que Dieu aussi prie, et que cette prière lui revient comme un tel d'égo centrique supérieur, et il faut que Dieu soit identifié en l'homme, pour que c'est encore, c'est quand même l'homme qui reçoit cet amour.
C'est identifié en l'homme, je ne comprends pas très bien. Vous savez, la Gemara dit que Dieu met les tefillin. La Gemara dit que Dieu étudie la Torah. Voilà. Qu'il dit le Kriyat Shema, etc. Mais il faut bien comprendre ceci. C'est le rôle de l'homme d'obtenir que, finalement, la modalité de la grâce, de la générosité, surmonte la modalité de la rigueur. Et quand l'homme n'arrive pas à obtenir cela, n'a pas de mérite suffisant ou de courage suffisant pour l'entreprendre, alors la Gemara nous dit que le souhait permanent de Dieu, c'est que cela se fasse. C'est-à-dire même lorsque l'homme épuise, si vous voulez, la quantité de courage ou d'initiative qu'il faut pour que ce culte qui est cette avoda, c'est-à-dire plus que culte, cet ouvrage, cette œuvre qui consiste à faire que le monde réussisse, puisse aboutir, alors le souhait permanent de Dieu accompagne notre histoire. C'est un peu en ce sens-là qu'il faut le comprendre. Vous arrivez à m'entendre, oui. Je voudrais que nous revenions à des questions qui se poseraient sur notre texte, de telle sorte d'élargir. Oui.
Et si
peut-on
considérer que le texte de la Torah pour donner pendant le cours de l'histoire, et non pas à son début, soit dans l'échec de la
Torah. Et
là, on ne pourrait pas dire qu'il n'est pas obligatoirement nécessaire pour l'homme, pour le
Bien, justement, j'ai fait un peu allusion à ce problème tout à l'heure. Normalement, l'histoire du monde aurait dû se développer jusqu'au bout sans que Dieu n'ait à intervenir. Ça, c'est une base de la théologie juive. Le cas exceptionnel, c'est qu'en cours de cette histoire, est apparue une société qui était déjà dans l'anticipation la plus absolue. Je veux dire, dès le temps des patriarches, l'identité hébraïque a vécu la vie du monde réussie, la vie du monde aboutie, mais en olam haba. Et cette société, qui est devenue le peuple juif, qui est devenue le peuple hébreu, a pris la charge sur elle de se maintenir et de se perpétuer dans le cours de l'histoire en train de se faire, de telle sorte de devenir le peuple de guide des autres sociétés. Il y a eu là vraiment un sacrifice dans le sens total, au point de vue théologique, d'être à Eved Hashem, de se mettre au service du créateur de ce monde-ci, alors qu'il s'agissait d'une identité humaine déjà aboutie. Par conséquent, la surprise, c'est que, en cours d'histoire, une société humaine réclame cette prérogative d'avoir à donner la Torah sur terre, alors que la Torah, ce sont les principes du jugement dernier. C'est lorsque, l'humanité est jugée, qu'elle est confrontée aux valeurs. L'initiative d'Israël, c'est de faire descendre ses valeurs en bas, de telle sorte que l'histoire du monde soit guidée par elle. Alors les anges, c'est-à-dire le monde d'en haut, le monde de la perfection, refusent, parce que c'est trop dangereux. Parce que si jamais Israël gâche la Torah, tout est gâché. Je voudrais vous banaliser cela dans un principe très simple. Quand un tribunal donne un jugement faux, c'est pas seulement la jurisprudence qui est en jeu, ou la justice dans le sens de juridiction qui est en jeu, c'est la morale tout court qui est en jeu. Très souvent, des consciences humaines sombrent dans l'immoralité parce qu'elles croient que la justice n'est pas de ce monde. Et pourquoi elles croient que la justice n'est pas de ce monde? Parce que les tribunaux ne jugent pas juste. C'est-à-dire l'honneur de Dieu est confié au juge, en quelque sorte. Alors, c'est de cela qu'ont peur les Malachi HaSharet, quand Moïse arrivait jusqu'en haut, parce que l'identité d'Israël est arrivée jusqu'au bout, vient dire, ben, donnez-nous la Torah, on va aider les autres. Alors les anges ont peur. Mais qu'est-ce que ça veut dire que les anges ont peur? Dieu existe. Encore une fois, si vous voulez, notre étonnement normal en théologie juive, ce n'est pas qu'il n'y ait plus de prophétie, c'est qu'il y ait eu la prophétie. Donc, pour répondre à ta question, il était inévitable qu'un certain temps de maturation se produise dans l'histoire humaine pour qu'en fin de compte, émerge une certaine société qui soit capable d'être déjà dans ce monde-ci des témoins de la vie du monde à venir. C'est ça, au fond, le tzaddik. Le tzaddik, pendant tout le cours de l'histoire, est un homme qui vit dans un monde qui n'est pas le sien. Le tzaddik vit dans un monde d'Orshaïm. Le monde appartient à Orshaïm, dit la Gemara. Ce monde-ci appartient à Orshaïm. C'est-à-dire aux hommes en train d'être en cours de mérite. Mais tant qu'on est en cours de mérite, c'est qu'on est un rachat, ça veut dire qu'on ne mérite pas encore. Voilà qu'il y avait quand même quelques tzaddikim, et qu'ils ont pris l'initiative de la grande chose qu'il faut comprendre, c'est que les Hébreux du temps de la sortie d'Égypte, et c'est ça la valeur de Moïse, les Hébreux du temps de la sortie d'Égypte étaient un peuple, une société, pas un ensemble d'individus philosophes ou moralistes, c'est-à-dire, encore une fois, comme le trouvons chez les Goïms, des individus isolés qui, en tant que tels, perçoivent l'évidence de la valeur morale. Le chidouche d'Israël, c'est que c'est une société, un peuple. Je reviens sur ce point. Nous sommes jugés par les nations comme si nous étions une église, alors que nous sommes un peuple. Vous comprenez? S'il fallait juger une église qui commettrait des fautes, alors le jugement serait terrible, parce qu'une église est censée être une communauté de saints. Mais lorsqu'on juge un peuple, il faut le juger en tant que peuple. Et à ce niveau de jugement, Israël est innocent de tout. Si c'était une église, alors il serait coupable. Mais rassurez-vous, Israël n'est pas une église, c'est un peuple. Est-ce que vous comprenez bien ce que je veux dire? Je parle un peu par allusion, parce que vous êtes très nombreux, il faut être très général. Mais c'est ça, j'ai été frappé de lire encore dans les journaux que le pape, une fois de plus, se manifeste chaque fois qu'il s'agit des adversaires d'Israël. C'est très frappant, mais tout ça, c'est une confirmation que c'est bien Israël qui est Israël. C'est-à-dire, Israël est jugé d'après une morale absolue. Alors, c'est bien Israël.
J'ai aussi votre avis sur le premier quart d'heure. J'ai tout compris qu'il y a des problèmes de gestion entre Dieu et les hommes.
Deux, c'est un problème deux.
J'ai tout compris que dans le premier quart d'heure, c'était peut-être le but de votre exposé que le Dieu et les hommes n'ont pas très bien le rapport.
Attendez, minute. Moi, j'ai encore un peu la mémoire de ce que j'ai dit, mais je ne m'y retrouve pas très bien dans ce que vous dites.
C'est-à-dire que vous avez terminé, vous avez interdit par la conclusion qui m'a rassuré que les gens ont fait ce qu'ils
disent. Ah non, je n'ai pas dit ça comme... excusez-moi, je ne vous laisse pas parler, parce que je sais par expérience qu'on perd trop de temps à rectifier les formules. Alors, employez exactement les formules que vous avez entendues ou parlez en votre nom. Mais ne me dites pas que j'ai dit ce que vous dites.
Alors, moi, je vous pose ma dernière question. Je veux savoir en quoi, pour quelle raison, dans tout votre exposé, vous avez évité d'utiliser le mot conscience de Dieu pour signifier de la représentation de l'ange.
Parce qu'il n'y a aucun problème de représentation de l'ange. Vous savez très bien qu'il nous est interdit.
Non, mais non, il ne s'agit pas de représentation, c'est un symbolisme. Pourquoi l'ange est-il différent de la conscience de Dieu? Parce que vous avez
une... Parce que conscience de Dieu, je ne comprends pas, c'est une expression à vous, ça, je ne la comprends pas.
Je
ne
sais pas, dans les produits de l'ange, c'est apparaître que, clairement que Dieu se pose des questions et l'ange, finalement, était là pour un truc de produit. Tu verras si vous permettez ça.
Alors attendez, je vais reprendre une petite analyse, peut-être que ça nous aidera à nous comprendre. Je vais reprendre ça par un tout autre biais. Si je vous parle des anges, c'est parce que nos textes en parlent. Et ce que j'entreprends de faire au fond, c'est de vous permettre une lecture qui vous serait cohérente dans les coordonnées de votre culture, alors qu'il s'agit de textes qui sont formulés dans des coordonnées très différentes de celles de, disons, de notre culture contemporaine. C'est la raison pour laquelle j'emploie des équivalences. J'ai d'ailleurs parlé très lentement parce que vous m'impressionnez avec votre nombre et que je crains toujours, disant quelque chose à quelqu'un, de dire le contraire pour l'autre avec les mêmes mots. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et c'est pourquoi je provoque vos questions de telle sorte que ces mises au point puissent nous aider à nous éclairer. Et prenons par exemple dans le livre de Job. Le livre de Job... Pardon ? Écoutez, je ne vous ai même pas demandé si vous connaissiez ou pas. Hein, et je me proposais de vous décrire ce qu'il y avait dedans avant de poser une question. Et vous êtes censé ne pas savoir ce que j'ai à vous dire, donc j'en tiens compte. Et le livre de Job commence par une introduction qui pourrait se formuler à peu près de la manière suivante. Un jour dans l'année, en principe c'est Rosh Hashanah, le conseil de Dieu, le conseil des anges se rassemble chez Dieu, et dans ce conseil-là, il y a aussi un ange qui s'appelle le Satan. Le Satan, que la traduction française nomme Satan, sans mettre l'article, parce qu'en hébreu il y a l'article, le Satan. Alors Satan, dans la théologie chrétienne, c'est quelqu'un, c'est Monsieur Satan, mais dans la Bible hébraïque, le Satan, c'est une réalité qui en hébreu signifie l'obstacle. Et c'est un des anges. Alors, nos commentateurs nous expliquent ça de la manière suivante. Lorsque Dieu juge une certaine étape de l'histoire, il est normal qu'il y ait un plaidoyer pour et qu'il y ait aussi la formulation de l'accusation. L'accusateur public dans le tribunal de Dieu, c'est cette réalité qu'on nomme en hébreu le Satan. Ha-Satan. ce qui fait obstacle. Alors vous comprenez mieux que le Satan lui-même, c'est Dieu lui-même, mais ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire dans la mesure où dans un tribunal, il faut formuler, mettre en évidence de façon lucide et aiguë le doute porté sur le prévenu, l'accusation à porter sur l'accusé éventuel, qui parle ? C'est toujours la vérité qui parle. Mais lorsque la vérité, c'est-à-dire Dieu lui-même dans sa parole, porte l'accusation, c'est perçu comme étant ce que l'hébreu appelle « ha-satan », c'est Dieu lui-même me faisant obstacle, ce que les païens ont fait de cela, c'est une autre affaire. Donc, vous voyez que même le Satan, c'est un des anges. Et lorsque je parle des anges en général dans cette définition, ça veut dire, par façon de parler, la réflexion intérieure au projet divin pour la création, et tous les attendus sont là. Voici le plaidoyer pour, le plaidoyer contre, la miséricorde qui intervient, la rigueur qui intervient. Mais tout cela n'a de réalité ontologique que dans le sens de Dieu à moi. Dans le sens de moi à Dieu, il n'y a pas tout cela. Il n'y a pas d'ange, il n'y a pas de Satan, il n'y a rien. Il n'y a que Dieu lui-même. Est-ce que vous comprenez mieux cette fois ? C'est-à-dire ? Alors, écoutez, posez-moi la question dans votre vocabulaire maintenant. Pas dans le mien. Dans votre... Oui, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire,
pourquoi vous utilisez
tous les termes possibles, différents de la conscience,
pour
expliquer que l'ange est la conscience de Dieu.
Mais parce que d'abord, c'est pas ça, et ensuite, j'arrive pas très bien à comprendre ce que vous entendez, vous, par conscience.
Moi, j'arrive pas très bien à comprendre
pourquoi
vous
n'utilisez
pas.
Oh. Écoutez, le mot de conscience ne se trouve pas dans l'hébreu. Alors je vous suis difficilement. Donnez-moi une équivalence. D'après mes études, le mot de conscience a été forgé par l'école des stoïciens. Et il a une connotation, enfin une signification philosophique bien précise, qui ne peut pas s'employer en théologie pour parler de Dieu. En tout cas pas en hébreu. Alors essayez de me faire comprendre de quoi vous voulez parler. En parlant de Dieu, conscience, qu'est-ce que ça veut dire ? Attendez, non, c'est lui qui parle. Bon, alors écoutez, tenez compte un peu de ce dont nous parlons. Vous comprenez, lorsqu'il y a un dialogue aussi difficile que le nôtre, il y a des présupposés et des attendus du dialogue. Ou bien vous adoptez mes descriptions de coordonnées d'une certaine cohérence, et alors le dialogue peut être facile, bien vous voulez m'imposer les vôtres. Moi je veux bien, mais alors expliquez-vous. Oui.
Le peuple hébreu, à un certain moment, avait atteint un certain stade qui lui a permis, plus ou moins, de revendiquer la Torah, et que des anges ont posé la question. L'opportunité ou le nom de répondre à cette orientation. Je suppose
donc
qu'il y avait une possibilité de répondre au nom.
Bien
c'est...
sûr.
Alors, s'il y avait cette possibilité-là, c'est pratiquement automatiquement, dans la logique de dire que l'apparition de Dieu dans le monde est quelque chose d'exceptionnel, ne devrait pas tellement arriver,
c'est cette possibilité-là qui avait. Oui. Alors, je reprends la première partie de ta question. Si vous souvenez bien des termes du Midrash, Dieu dit à Moïse par deux fois, donne-leur une réponse. Si Moïse n'avait pas été capable de donner cette réponse, la Torah n'aurait pas été révélée. C'est-à-dire qu'il a fallu que l'on entende exprimer par Moïse la claire compréhension de la part d'Israël qu'effectivement le temps était venu qu'une société humaine puisse recevoir cette Torah. Il y avait là, très clairement, dans l'explication que je vous ai donnée, je suppose, l'indication que un peuple libre existait déjà, que par conséquent la Torah pouvait lui être confiée, quelqu'un qui a vraiment l'expérience de la liberté, on peut lui confier le sort des valeurs morales. Voilà ce que ce Midrash veut nous faire comprendre. La Torah ne peut être donnée à Israël qu'après la sortie d'Égypte, et il faut prendre toutes ces références au sérieux. L'Égypte, ça a été sérieux, c'était vraiment l'asservissement. La sortie d'Égypte, c'était sérieux, c'était vraiment la libération. Ce peuple hébreu a eu cette expérience-là, par conséquent, on peut lui confier le sort de la loi morale, il est possible d'espérer qu'il ne gâchera pas le monde des valeurs. Mais pour cela, il fallait d'abord que Moïse atteste que l'hébreu était arrivé à ce niveau-là. Et il y avait une double réponse. Premièrement, nous savons ce qu'est la liberté, vous les anges, vous ne savez pas. Deuxième réponse, la seconde réponse que je vous ai donnée, nous sommes capables, le cas échéant, si une faute ou une erreur a été faite, de nous repentir. Et ce sont les deux chidushim, les deux choses nouvelles que la conscience hébraïque, cette fois je dis conscience, parce qu'il s'agit d'hommes, la conscience hébraïque amène dans l'histoire, introduit dans l'histoire du monde. Le monde païen ne connaissait ni la liberté, ni la capacité du repentir. À partir du moment où une identité humaine de cette sorte est capable d'exister, alors la transcendance peut se révéler. Nous sommes partis d'un problème philosophique, et la réponse était historique. Le problème philosophique n'a pas de solution en soi. Étant donné la différence de nature entre la transcendance et l'immanence, la révélation est impensable. Et aucun philosophe ne dépassera cette impossibilité. L'histoire répond qu'il y a un cas particulier, Israël. La transcendance peut être communiquée à l'être libre et responsable. Et c'est la raison pour laquelle l'histoire nous montre ce cas particulier, une seule, la société d'Israël, a vécu son histoire par rapport au jugement de la morale absolue. Enfin, là, une fois de plus, les textes et l'histoire se rencontrent. Mais je reviens quand même à, si vous voulez, à la question qui m'a été posée, à laquelle je n'ai pas répondu. Comprenez bien qu'il y a des implications de vocabulaire considérables. Enfin, c'est ce que je disais déjà hier à la journée d'études à l'école Maïmonide. Ça fait déjà à peu près une vingtaine d'années qu'un certain groupe de juifs à Paris et un peu ailleurs depuis étudie d'une certaine méthode et d'une certaine manière. Avec le temps, on ne prend pas garde qu'il y a eu déjà des études préalables et qu'il y a énormément de choses dans notre vocabulaire d'études qui renvoient à des choses déjà élucidées. Il faudrait au fond reprendre chaque soir, je dis pas chaque année ou à chaque séminaire, mais chaque soir, toutes les définitions de base qui nous ont fait partir de l'alphabet il y a 20 ans, pour arriver à des textes de ce genre. Enfin, ce que nous entreprenons de faire dans les forêts de ce genre est extrêmement difficile. Hein, puisque, au fond, je vous parle de textes qui viennent d'une hauteur considérable, parce qu'ils viennent de 2000 ans d'expérience de sagesse, une sagesse reçue depuis 2000 ans avant, ça fait 4000 ans, et puis nous sommes là rassemblés des juifs dont la majorité sont absolument analphabètes en hébreu. Je ne parle pas de l'épaisseur d'érudition qu'il faudrait, et d'autre part, tout imprégné d'une culture gréco-romaine et philosophique occidentale, contre laquelle précisément le message de la Torah est donné. Vous voyez toutes les implications de nos dialogues. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas besoin de vous demander le moins d'agressivité possible, le plus de patience, et c'est partagé et réciproque. Alors, ce qui dit.
Je voudrais savoir quel genre de matrachim nous faisons quand nous faisons.
Quel genre de
matrachim nous faisons.
Oui, dans le langage du Midrash, lorsqu'on fait une bonne action, un malach apparaît, un ange apparaît. Et lorsqu'on fait une mauvaise action, un démon apparaît. Bien. Et le Midrash explique en disant que ce sont des avocats ou des accusateurs. C'est-à-dire nous sommes accompagnés par ce que nous avons fait de notre être, mais ce qui nous accompagne comme une sorte de aura, si j'ose dire, eh bien, est à la fois... notre identité, donc, et notre juge. Alors, au fond, c'est dans le sens du plaidoyer. Je reprends un peu le problème de tout à l'heure. Je vous ai dit, au point de vue théologique, et ceci, toutes les traditions, qu'elles soient des Pashtanim, ou des Mkubalim, ou des Darshanim, convergent, du point de vue théologique, le malach n'est que l'expression de la volonté de Dieu. Et la figure du malach, d'une façon de parler, se dessine par rapport à la situation à laquelle se réfère la volonté de Dieu. La volonté de Dieu concernant le fait que le monde existe, c'est le Yud Kevarté. Parce que dans ce terme est impliqué tout l'être possible. La volonté de Dieu, que s'il y a maladie, qu'il y ait guérison, ça s'appelle Raphaël. Mais Raphaël, c'est Dieu lui-même. Ça veut dire que c'est Dieu qui est Raphaël. Ça ne veut pas dire que Raphaël soit Dieu. L'idolâtrie, ce serait d'adorer Raphaël, dans le sens de Hashem ou Elohim, et pas Elohim ou Hashem. Par conséquent, en fait, tout se passe comme si, accompagnant toute l'histoire de ce monde-ci, le jugement de Dieu pour nous, est-ce que ce monde mérite d'exister ou pas, et à l'intérieur de ce monde, telle ou telle créature, nous accompagne. Et c'est ça, le monde des anges qui nous accompagne, et qui est destiné à se résorber à la fin des temps. Bayomahu Hashem Levado. Il n'y a plus Elohim, il n'y a plus Malachim, il n'y a plus tout cela. Et effectivement, cela signifie que c'est la projection de notre identité dans la délibération du tribunal céleste. J'essaye d'employer un langage imagé, non pas symbolique, mais imagé le plus simple possible. Hein. Il est bien évident que lorsque les Midrashim font parler le Satan, c'est Dieu qui parle, mais en tant qu'il accuse. Alors cette manifestation de Dieu est terrible, on l'appelle le Satan. Les païens ont lancé un anti-Dieu. Mais pour nous, nous savons que c'est la voix de Dieu lui-même lorsqu'elle est impitoyablement accusatrice. Elle met en évidence le doute caché. C'est la conscience humaine qui est libre. Et la volonté de Dieu, c'est que le monde réussisse. Mais il y a une confrontation entre la liberté et les valeurs, et par conséquent, à chaque étape de notre histoire, il y a une délibération qui nous accompagne. À ce moment du Midrash, se produit un événement exceptionnel dans l'histoire du monde. Une société entreprend avec Israël. Alors Dieu se dit, on va voir si c'est vrai. On va voir si c'est vrai. Et les Malachi Hasharet, c'est-à-dire Dieu d'une certaine manière, disent, mais est-ce que vraiment je vais confier le sort de l'absolu à Iloudisha, au fils d'une femme, à Bafarvadam, à de la chair et du sang? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire un être plein de tendances, plein de complexes, plein de tout ce que vous voudrez. Qu'est-ce qu'ils vont faire des valeurs? Et il n'y a qu'à suivre ce qu'effectivement les humanistes ont fait des valeurs pour savoir à quel point la transcendance a été bafouée et que finalement on bascule dans un monde